Philosophie politique, Père Philippe, Saint-Joseph, cours du 13 novembre 84.
Alors nous allons plonger dans Platon en essayant de découvrir ce qui anime toute cette grande œuvre de la République, Dialogue sur la justice, ce qui est très grec, hein, on va l'oublier. Logos et la diké, c'est très grec, avec la loi en même temps, mais c'est faut essayer de saisir ce qu'il peut y avoir un petit peu de génial dans cette perspective. Alors, on ne peut pas tout voir, hein, je ne peux pas tout lire avec vous. Donc je vous disais, comme presque toujours chez Platon, ça commence par une série d'expositions d'opinions, ce qui serait très intéressant à voir, hein, parce que ça nous donnerait tout le contexte. Mais comme pour le banquet c'est encore plus systématique. Ici c'est moins systématique, mais c'est quand même très intéressant, parce qu'on voit exposer toutes les idées sur la justice. Donc, par politesse, hein, Socrate se tourne vers Céphale, le vieillard. Et il l'invite à parler sur le seuil de la vieillesse, sur le regret du passé. À présent, ce n'est plus vivre. C'est le vieillard, oui, c'est Socrate qui montre ça, qui dit que... Mais la vieillesse n'est pas la cause. Car il y a des vieillards qui pensent autrement. Heureux d'échapper à l'amour de tout ce qui est passionnel. Et donc c'est ça qui remonte. Donc il y a deux espèces de vieillards. Il y a les vieillards qui vivent du passé avec le regret du passé. Il y a les vieillards qui vivent de la sagesse. Heureux d'échapper à l'amour des femmes et délivré des passions. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Socrate qui dit ça. C'est ta richesse, donc, qui lui permet, c'est ça qui lui permet donc, d'être dans cette paix. Alors, l'opinion des poètes sur la justice, c'est ça qui est intéressant à voir pour nous ici. Pindare ne dit-il pas, la douce espérance l'accompagne, lui réchauffe le cœur et nourrit sa vieillesse, l'espérance qui gouverne souverainement l'esprit, flottant des mortels. Ceci conduit à regarder le problème de la justice, donc d'où comment saisir la vérité sur la justice. La justice, cela peut être juste ou injuste, en ce sens que on définit dire la vérité sur la justice, c'est de rendre à chacun ce qu'on a reçu. Première définition. Rendre à chacun ce qu'on a reçu. Alors, tout de suite l'objection de Socrate. Mais cela, est-ce là vraiment la justice? Car cela peut être juste ou injuste. Selon Simonide, il faut rendre à chacun ce qu'on lui doit. C'est déjà beaucoup plus précis, hein, seconde précision. Mais alors, la justice consiste-t-elle à faire du bien à ses amis et ne jamais leur faire du mal? Mais à ses ennemis, il faut leur faire du mal, car c'est cela qui leur convient. Vous voyez bien la définition, il faut rendre à chacun ce qu'on lui doit. Donc à l'ennemi, on ne lui doit pas du bien. Par définition, c'est un ennemi. Donc ce qu'on lui doit, ce qui lui convient, c'est le mal. Mais est-ce là le fait d'un homme juste de faire du mal à un homme, quel qu'il soit? Oui. Apparaît le point de vue au-delà du juste et de l'injuste, de l'homme juste et l'injuste, l'homme. La justice ne regarde pas l'ami. La justice ne regarde pas l'homme juste. La justice ne regarde donc pas l'homme injuste. Donc il faut regarder l'homme. Ça c'est Socrate, 335b. Mais est-ce le fait d'un homme juste de faire du mal à un homme, quel qu'il soit. En aucun cas, il n'est juste de faire du mal à quelqu'un. Une telle sentence ne peut être que d'un homme enivré de sa puissance. Donc la question demeure. Alors intervient un autre, c'est Trasimaque. Trasimaque, c'est un personnage. C'est l'opinion des orateurs et des sophistes. Il y a d'abord les poètes. Vous avez bien, si on a le temps, on verra le jugement de Platon sur les poètes. C'est très, très intéressant. Et sur l'art, d'une façon générale. Parce que ça fait apprécier Aristote. Quand on voit ce que dit Platon sur l'art, pas fameux. Très cru. Un homme comme Platon, il y a des choses qu'il n'a pas saisies du tout. Alors, oui, d'abord l'opinion des poètes, puis l'opinion des sophistes, ce qui est tout à fait normal. On se pose la question, alors qu'est-ce que c'est que la justice? Les sophistes, 338, c'est l'intérêt du plus fort. Car chaque gouvernement établit des lois dans son intérêt. Ces lois faites, il déclare juste ce qui est conforme à ces lois. Donc, vous voyez bien, celui qui arrive au pouvoir, il établit des lois. Donc définir la justice, la conformité aux lois, tout dépend de ces lois. Si c'est des lois faites par le puissant, et c'est pour ça qu'on définit la justice, l'intérêt du plus fort. Socrate, c'est l'intérêt qui est la justice du plus fort. Elle est donc quelque chose d'utile. L'obéissance au gouvernement fait plutôt de la justice, fait partie de la justice. Mais si les lois sont mauvaises, alors, pour Trasimaque, tout cela n'est pas vrai, car aucun artiste ne se trompe, car il se trompe s'il quitte son art. Le chef d'État, en tant que tel, ne se trompe pas. Hein, vous voyez, sophiste, c'est des choses qui ont soutenu après, ça. Songez à Machiavel. Ça, c'est... Le chef d'État, en tant que tel, ne trompe pas. Donc, il érige en loi ce qui est le meilleur pour lui. Donc, la justice consiste à faire ce qui est utile au plus fort. Le plus fort n'a en vue que son intérêt. C'est bien cette définition, c'est l'intérêt du plus fort. Pour t'en rendre compte, naïf Socrate, c'est intéressant de voir comment les sophistes traitent Socrate, hein, naïf Socrate, tu n'as qu'à remarquer que l'homme juste a partout le dessus vis-à-vis de l'injuste. Dans leur convention. L'injustice se vaut à elle-même avantages et profits. C'est naïf Socrate. Hein? Le naïf Socrate qui croit que le juste, il est toujours au-dessus de l'autre. Mais non, c'est pas ça du tout, c'est juste l'inverse. Alors, c'est justement ça qu'il va soutenir. Alors, Socrate répond, pour moi, je ne suis pas persuadé. Et je ne crois pas que l'injustice soit plus profitable que la justice. Pour, n'oubliez pas, pour le sophiste, l'injustice est beaucoup plus profitable que la justice. Parce que quand vous êtes dans une position d'injustice, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc c'est bien plus profitable. Vous prenez votre gain tout le temps. C'est toujours votre moment. C'est toujours bon. C'est pour ça qu'il dit, naïf Socrate, tu n'as qu'à remarquer que l'homme juste à partout le dessus vis-à-vis de l'injuste. Il pense juste l'inverse. Hein? C'est l'injuste qui est toujours celui qui domine. C'est toujours l'injuste qui domine. Alors Socrate démontre que le gouvernement ne gouverne que pour le bien de ses sujets, qui est le plus faible, et non pour celui qui est le plus fort. Voilà pourquoi personne ne s'offre spontanément à commander. Personne ne s'offre spontanément à être prieur, hein, voyez. Personne ne s'offre spontanément à commander et à soigner la masse des autres. On recherche plutôt à s'éloigner. Donc ça prouve que le gouvernement agit en vue du bien des autres, non pas en vue de son bien. Si c'est en vue de son bien, tout le monde s'y précipiterait. Alors, Trasimarque reprend la parfaite injustice est plus avantageuse que la parfaite justice. C'est pour cela que l'injustice est plus utile que la justice. Alors on va développer ça tout au long et longuement, comment l'injustice est plus utile que la justice, tout simplement parce que c'est beaucoup plus efficace. Au fond, c'est la thèse de l'efficacité. C'est la thèse de l'efficacité qui est mise en pleine lumière, et selon la thèse de l'efficacité, évidemment, l'injustice n'a pas de limite, pas de borne. Alors, intervient ensuite Glaucon, c'est déjà plus intéressant. Alors, il parle de la question du bien. C'est à partir du bien, 357a. Je ne veux pas développer tout cela. C'est intéressant, le développement de Glaucon et de Socrate. Alors, on va faire intervenir le mythe de Gyges, 360c, montre qu'on n'est pas juste par choix, mais par contrainte. Car on ne regarde pas la justice comme un bien individuel. Puisque partout où l'on croit pouvoir être injuste, on n'en s'en fait pas une faute. Ça, c'est très intéressant, c'est la justice vue uniquement au niveau communautaire. Alors, c'est ce mythe de Gyges qui joue un rôle important et assez curieux. Vous savez, Gyges, le mythe de Gyges, c'est ce pouvoir qu'on a tout soudainement d'être invisible. C'est merveilleux. Alors, on est absent. On entend ce que les autres disent de soi. On est donc celui qui montre que spontanément, les gens ne sont pas justes. Ils ne sont justes que par contrainte. C'est uniquement comme ça. Donc ça, c'est selon l'opinion commune, et c'est intéressant parce que ça relègue la justice du côté. Je n'insiste pas plus. Je vais tout de suite prendre avec vous alors le développement de Socrate, 368. C'est intéressant au point de vue méthode, et quand on peut, si on a le temps, c'est intéressant de regarder justement comment Socrate arrive par ce développement à pouvoir montrer progressivement comment on a précision d'une définition, puisque c'est ce qu'on recherche. On cherche une définition. Socrate, la recherche que nous entreprenons est très épineuse et demande une vue pénétrante. Socrate reconnaît qu'il n'a pas cette vue, donc il ne peut pas aller directement saisir ce que c'est que la justice. C'est pas commode du tout. C'est pas étonnant du reste, puisqu'on est enveloppé d'injustice. Selon l'opinion commune, tout le monde cherche en premier lieu l'injustice, c'est plus commode. Alors on comprend très bien que c'est quelque chose qui est difficile, puisque c'est quelque chose de difficile, et qu'on est myope par rapport à la justice. Il faut donc essayer de regarder cela où c'est écrit en gros caractères. Et alors ça, c'est la fameuse chose que nous trouvons ici, et ce qui est très intéressant, parce que c'est par là que va intervenir l'État. 368d. Puisque cette pénétration nous fait défaut, voici, dis-je, comment je crois qu'il faut mener notre enquête. Si l'on donnait à lire de loin à des gens qui ont la vue basse, des lettres écrites en petits caractères, et que l'un d'eux s'avisa que les mêmes lettres se trouve écrite ailleurs en caractère plus gros, sur un tableau plus grand. Ce leur serait, je présume, une belle chance de commencer par lire les grosses lettres et d'examiner ensuite les petites pour voir si ce sont les mêmes. C'est très bien, répondit Adimante. Mais quel rapport vois-tu là, Socrate, avec la question de la justice ? Je vais te le dire, répliquai-je. Si nous admettons une justice pour l'individu, nous en admettons une aussi pour l'État tout entier. Certes, dit-il. Or, l'État est plus grand que l'individu. Il est plus grand. Par conséquent, il pourrait bien y avoir une justice plus grande dans le cadre plus grand, et par là plus facile à déchiffrer. Si donc vous y consentez, nous examinerons d'abord quelle est la nature de la justice dans les États. Vous voyez le grand détour, hein, c'est extraordinaire. Par là, Socrate va être obligé d'édifier un État, tout simplement pour qu'on ait des grandes lettres. Et que dans l'État, on puisse découvrir d'une façon plus profonde ce que c'est que la justice. Et alors, est-ce que c'est une astuce ? On pourrait dire que c'est une astuce prodigieuse. Hein ? Nous cherchons ce que c'est que la justice. Tellement difficile de voir ce que c'est que la justice. Quand vous regardez dans l'individu, regardez à côté de vous, hein, celui qui a une fonction, est-ce qu'il est juste ? Alors on voit toutes les opinions. Celui qu'on voit le plus, c'est l'injuste. C'est bien évident que c'est l'injuste qu'on voit le plus. C'est celui qui fait le plus de bruit, c'est celui le plus efficace, c'est celui qui... C'est l'injuste qu'on voit, on l'a bien vu. Les sophistes sont là. Alors, la justice est très difficile de saisir ce que c'est que la justice. Comment trouver ce que c'est que la justice ? Alors, regardons en grandes lettres. En grandes lettres, où est-ce qu'on va le trouver en grandes lettres ? On va le trouver dans l'État. Il a bien de la chance, hein ? Je ne sais pas si vous diriez ça. Moi, je dirais qu'on trouve encore des hommes justes. On a beaucoup de peine de trouver des états dans lesquels on trouve la justice écrite en grandes lettres. Ça, c'est le réalisme de Platon. Il faut bien comprendre ça. Parce que, de fait, je dirais, oui, on voit bien, il y a des justes et des injustes parmi les hommes. Il y a des bons et des mauvais. C'est du reste pour ça qu'il y a justice et injustice. S'il y a justice et injustice, c'est parce que dans les hommes, il y a tout ça. Platon, tout de suite, hein, c'est extraordinaire ça. Ça, je crois que c'est très important pour saisir ce que c'est Platon, ça. Pour moi, ça m'a toujours semblé un passage extraordinaire pour illustrer ce qu'est Platon. Parce que c'est un réalisme d'un idéalisme forcené. Et c'est vrai, c'est un réalisme, mais un idéalisme. Avoir le culot de dire, c'est dans l'État qu'on va voir la justice écrite en grandes lettres. C'est pas dans l'État du tout que Platon voit. Platon est très critique pour l'État. Ça, c'est évident. Il faut pas dire tout. Il est naïf par rapport aux individus, mais par rapport à l'État, pas du tout. Il voit très bien que l'État est très injuste. Alors, il faut donc pouvoir réaliser dans une idée. L'État dans lequel la justice est écrite en grandes lettres. Et tout le dialogue est ça. Vous voyez, alors qu'est-ce que c'est que cette philosophie politique ? Qu'est-ce que ça correspond quand vous pensez qu'est-ce que c'est que cette philosophie politique qui est prise par le point de vue de la justice ? Elle est dominée par la justice. Puisque c'est dans l'État que la justice est écrite en grandes lettres. Donc la lumière sous laquelle je comprends ce que c'est qu'une philosophie politique, c'est la justice. Très intéressant du reste. Si la justice n'existe pas, l'État n'a pas besoin d'exister. L'État n'a besoin d'exister que pour que la justice soit écrite en grand maître. C'est pour ça que l'État doit exister. Si je comprends le raisonnement de Platon, c'est bien cela. L'État n'a d'autres raisons d'exister que pour cela. Alors continuons parce que c'est très intéressant de voir ça. Oui. Par conséquent, il pourrait bien y avoir une justice plus grande dans le cadre plus grand et par là plus facile à déchiffrer. Si donc vous y consentez, nous examinerons d'abord quelle est la nature de la justice dans les États. C'est la grande partie. Ensuite, nous l'étudierons dans l'individu en tâchant de retrouver la ressemblance de la grande dans les traits de la petite. Alors, dans la lumière de l'État, je regarde les individus. Mais l'État, je le vois comme justement étant enveloppé par la justice et n'étant État que dans la mesure où il donne la justice en grandes lettres. C'est à mon avis fort bien, dit-il, répondit-il. Eh bien, repris-je, si nous considérions en imagination, alors, faisons attention, en imagination, c'est logo. Vous voyez comme c'est difficile, ne regardez jamais uniquement la traduction. Je sais bien que c'est, le grec d'Aristote se comprend facilement, le grec de Platon est un peu plus difficile. N'est-ce pas? C'est du beau grec. Alors c'est un peu plus. Mais il faut de temps en temps, quand il y a comme ça, vous comprenez, reprend. Si nous considérions en imagination la formation d'un État, alors tout de suite, hein, imagination dont Platon imagine. Pas du tout. C'est logo. Donc, logo parle logos. Donc, alors vous voyez, ça c'est typiquement une herméneutique. On dit le logos de Platon c'est l'imagination, pas du tout. Le logos de Platon c'est pas du tout l'imagination. C'est un logos qui veut atteindre la vérité. Alors ne dit pas en imagination, disons par le logos. Alors même si ce logos de Platon n'est pas du tout celui d'Aristote, c'est un logos très très différent. Alors il faut essayer de comprendre que justement, qu'il va essayer de le saisir par la voie dialectique. Par une voie dialectique. Par une voie dialectique, il va essayer de saisir ça. Il va essayer de saisir le point de vue du logos. Alors il va essayer de comprendre par le fait même ce que va représenter cette contemplation de ce que représente par le point de vue. Donc, ne verrions-nous pas aussi la justice s'y former ainsi que la justice. Donc, si on forme, si on contemple, c'est une contemplation, on va essayer de contempler le point de vue de l'État. La formation de l'État, ça va se faire. Alors, c'est vrai, c'est une espèce de construction, donc c'est une œuvre d'art qu'on va faire. On va la rendre la plus intelligible possible. C'est l'État le plus intelligible qui soit. C'est vraiment ce qui va être quelque chose de parfaitement lumineux. L'État de Platon, c'est d'une lumière absolue. C'est bien que c'est pour ça que c'est l'œuvre vraiment d'une contemplation. D'une contemplation qui va nous montrer le point de vue de la justice, s'y former, ainsi que l'injustice. Il se pourrait, dit-il, alors on répond, cela fait. Ne pourrions-nous espérer découvrir plus facilement ce que nous cherchons? Beaucoup plus facilement. Vous semble-t-il qu'il faille essayer de mener cette recherche à bonne fin? Ce n'est pas une petite entreprise, à mon avis. Réfléchissez-y. Donc, alors ça, c'est toujours le point de vue de Socrate, hein, bien enveloppé pour montrer que ce n'est pas commode du tout, hein, avant d'y entrer. Alors, nous allons voir maintenant la formation de l'État. Comment l'État va nous permettre de comprendre en grande lettre ce que c'est que la justice et ce que c'est que l'injustice. Mais voyez toute la grande machine qui va commencer. Construire un État, l'État idéal. L'État qui est, vous allez tout de suite comprendre, la justice doit être vue, nous le verrons plus tard, mais on peut dire tout de suite, dans la lumière du bien. La justice, c'est comme le reflet du bien. Le reflet du bien dans l'État. Alors, il faut que l'État soit capable de recevoir ce bien, pour être juste. D'où vous comprenez déjà, ça va comprendre, qu'est-ce qui va construire cet état, c'est le philosophe qui contemple le bien, seul il contemple le bien, et donc seul le philosophe peut lui faire comprendre ce que c'est que l'état, et en construisant l'état, parce qu'il le fait dans la contemplation du bien, cet état impliquera la justice. Et alors c'est constamment ce point de vue-là qui va se faire, vous voyez, le fruit de la contemplation du philosophe, qui seul contemple le bien, va nous faire comprendre ce que représente une communauté idéale, une communauté dans la lumière de la contemplation du bien, elle sera juste. Or, selon moi, repris-je, l'État doit sa naissance à l'impuissance où l'individu se trouve de se suffire lui-même. Origine de la communauté, origine de la police. Quelle est l'origine de la police? Quelle est l'origine de la communauté politique? C'est l'impuissance. Ça, c'est très intéressant parce que c'est une des théories qu'on retrouvera après, non? Une des théories classiques, hein. L'État doit sa naissance à l'impuissance où l'individu se trouve de se suffire lui-même et au besoin qu'il éprouve de mille choses. C'est qu'il y a dans l'individu des quantités de désirs, c'est qu'il y a dans l'individu des appétits multiples, des besoins multiples. Or, l'État n'existe que pour satisfaire ses besoins. C'est uniquement pour satisfaire ses besoins. Vois-tu quelle autre cause à l'origine de l'État? Quel autre arché? Y a-t-il un autre principe? C'est un autre principe. Donc, c'est le point de départ. Y a-t-il une autre source de l'État? Aucune, dit-il. Dès lors, un homme prend un autre homme avec lui en vue de tel besoin, puis un autre en vue de tel autre besoin. Et la multiplicité des besoins assemble dans la même résidence plusieurs hommes qui s'associent pour s'entraider. Donc, qui coopèrent, qui s'associent pour s'entraider. C'est à cette société que nous avons donné le nom d'État. Est-ce bien cela? Donc, la multiplicité des besoins à satisfaire, l'insatisfaction et la limite de l'homme va expliquer ce que représente le point de vue de la communauté. Oui, pas du tout la finalité, hein, vous avez remarqué. Pas de cause, pas de finalité, c'est uniquement le point de vue de satisfaire les besoins. Et c'est à partir de la limite de l'homme. Mais, l'interrogation, mais quand un homme donne et reçoit, il fait cet échange que parce qu'il y voit son intérêt. Sans doute. Eh bien donc, repris-je, jetons par la pensée les fondements d'un État. Ces fondements seront naturellement nos besoins. Vous retrouvez le logo, hein. Il faut bien voir, par la pensée. Donc c'est par la pensée qu'on va unir cela pour essayer de trouver le fondement d'un État. Quel est le fondement d'un État? Le fondement d'un État sont donc les besoins. Les besoins de l'homme. L'insatisfaction de l'homme qui lui cause ses besoins, sans doute. Mais le premier et le plus important de tous est la nourriture. Alors là, on retrouve le réalisme. D'où dépend la conservation de notre être et de notre vie. C'est donc en vue de conserver l'être et la vie que l'État se fait. Mais vous voyez, ça vient en second. On a regardé d'abord comme arché l'origine du besoin, et ce besoin, c'est, si on le satisfait, permet à l'être et à la vie de pouvoir survivre. Assurément. Le deuxième, alors notez tout simplement successivement, ça c'est très intéressant, parce que alors vous avez l'échelle des valeurs selon Platon. Et l'échelle des valeurs selon Platon, c'est l'échelle des valeurs selon les besoins. Quels sont les besoins qui assemblent les hommes? Et dès que ces besoins n'existent plus, alors par le fait même, l'anarchie va arriver, vous voyez. Vous allez tenir les hommes par le besoin. C'est vrai. C'est comme ça que vous les tenez. Autrement, on n'arrive pas. C'est Et c'est vrai que la plupart du temps, c'est comme ça. Vous n'avez qu'à voir les propagandes électorales. Vous aurez dorénavant beaucoup plus de choses qu'avant. Télévision à la maison, toutes les possibilités, et ainsi de suite. Donc, premier besoin, le point de vue de la nourriture. Le deuxième, c'est celui du logement. Le troisième, celui du vêtement, pour les adamiques. Et de ce qui s'y rappelle, de ce qui s'y rapporte. Donc, nourriture, logement, vêtement. C'est bien cela. Mais voyons, repris-je. Comment l'État suffira-t-il à fournir tant de choses? Ne faudra-t-il pas que l'un soit laboureur, un autre maçon, un autre tisserand? Ajouterons-nous encore un cordonnier ou quelque autre artisan pour les besoins du corps? Certainement. L'État est donc essentiellement composé de 4 ou 5 personnes. Vous avez noté, tout simplement, c'est pour les satisfaire ces différents besoins. Besoin de la nourriture, donc l'agriculteur, la vache, à lait. Besoin de la nourriture. Donc, il faut l'agriculteur. Deuxièmement, la maison, le maçon. Troisièmement, le vêtement, le tisserand. Donc, vous avez les différents besoins qui sont donnés de cette manière-là. Cela est évident. Mais quoi? Faut-il que chacune d'elles fasse le métier qui lui est propre pour toute la communauté? Alors, c'est ici qu'on voit la division du travail, hein, cette fameuse question de la division du travail. Elle est dans Platon. Hein. Mais quoi? Faut-il que chacune d'elles fasse le métier qui lui est propre pour toute la communauté? Par exemple, que le laboureur fournisse à lui seul les vivres pour 4 et mette 4 fois plus de temps et de peine à préparer le blé pour en faire part aux autres, ou bien que, sans s'inquiéter d'eux, ils produisent pour lui seul le quart seulement de ce blé, dans un quart de son temps, et consacre les 3 autres quarts, l'un à se faire une maison, l'autre un vêtement, l'autre des chaussures. Ou qu'au lieu de se donner du mal pour la communauté, il fasse ses propres affaires lui-même pour lui seul. Et le début de la coopération. Alors la coopération va se faire en fonction, là encore, de l'efficacité. Principe d'efficacité, vous allez voir, c'est extraordinaire, le réalisme de Platon. Là. Il y a un idéalisme forcené et un matérialisme forcené. C'est très curieux, c'est très très curieux à voir. Les deux causalités, la forme et la matière, qui sont complètement séparées. Parce que ça, c'est tout à fait les principes de tout matérialisme. Tout principe matérialiste, c'est ça, c'est l'efficacité, c'est la nécessité, c'est le besoin, c'est pour ça qu'on est rassemblés. Mais si on est ici, c'est pour avoir la croûte tous les jours. C'est bien évident, c'est uniquement pour ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison d'être rassemblés que pour avoir la nourriture, à chaque jour, avoir le vêtement, avoir une maison. Comme elle est grande, ça coûtera moins cher qu'elle est entièrement logée, qu'il y ait le plus de gens possible dedans, comme ça proportionnellement ça ira mieux. Voilà le raisonnement matérialiste. Et alors c'est très bien de poser le problème. Est-il plus efficace que le laboureur travaille pour lui seul un quart du temps? Vous voyez, c'est le quart, hein, c'est pas 3. Pour Aristote, la communauté c'est 3. Pour Platon c'est 4. C'est amusant ça aussi. À se poser la question. C'est quatre qui jouent un rôle important. Alors, faut-il qu'il travaille pour plus, ou bien seulement pour lui-même? Adimante répondit, peut-être, Socrate, le premier procédé serait-il plus commode? Serait-il donc quelque chose de plus rohan? Par Zeus! Je n'en suis pas surpris, repris-je. Et c'est bien ce qu'il pensait. Ta réponse me suggère en effet une réflexion. C'est que tout d'abord, la nature, ça c'est intéressant comme principe, chaque fois que Platon revient à la nature, c'est le principe qui émerge, c'est tout d'abord, la nature n'a pas précisément donné à chacun de nous les mêmes dispositions. mais qu'elle a différencié les caractères et fait l'un pour une chose, l'autre pour une autre. N'est-ce pas ton avis ? Oui, oui. Mais quoi ? À lequel vaut le mieux de faire ? À toi seul, plusieurs métiers ? Ou de n'en faire qu'un seul ? De n'en faire qu'un seul, dit-il. Mais si je me trompe, il est évident ainsi que si on laisse passer le temps de faire une chose, on la manque. C'est évident, en effet. C'est que, je pense, l'ouvrage n'attend pas la commodité de l'ouvrier. Et l'ouvrier ne doit pas quitter son ouvrage, comme si c'était un simple passe-temps. Il est rivé à son travail, vous voyez bien. L'efficacité qui commande tout. Où y a-t-il le plus d'efficacité ? Si vous passez d'un métier à l'autre, vous êtes un quart de temps laboureur, un quart de temps tisserand, un quart de temps maçon. Vous perdez du temps. Alors que de l'autre côté, vous n'en perdez pas. Tout votre temps est ordonné de ce point de vue-là. Donc c'est le facteur d'efficacité de temps, le moins de perte de temps, qui fait rencontrer le point de vue de la nature. Parce que la nature, pour Socrate, pour Platon, c'est justement ce qui va nous donner cette efficacité. C'est que je pense, l'ouvrage n'attend pas la commodité de l'ouvrier. Ça va très loin, ça, comme petit principe. Ce n'est pas pour l'homme, hein, vous voyez bien. C'est pas tout à fait, c'est pas pour l'homme. Hein. C'est que je pense, l'ouvrage, donc 370b, c'est que l'ouvrage n'attend pas la commodité de l'ouvrier. Et l'ouvrier ne doit pas quitter son ouvrage comme c'était un simple passe-temps. Le dilettantisme, il ne le doit pas. Par suite, on fait plus et mieux et plus aisément lorsque chacun ne fait qu'une chose, celle à laquelle il est propre, dans le temps voulu, sans s'occuper des autres. C'est net, hein ? Très tyrannique hein, comme principe. Surtout quand c'est un autre qui va vous l'imposer. Vous savez ce que font les psychologues aujourd'hui. Hein ? Vous êtes bon pour ce métier-là. Eh bien, vous n'aurez que ce métier-là durant toute votre vie. Parce que vous êtes bon pour ça. Oui, on retrouve exactement la théorie de Platon. Hein ? C'est très très intéressant de voir ça. La division du travail, c'est très intéressant parce que c'est à la base même de l'État pour lui. Oui. Alors, quand vous voyez d'autres théories, suppression de la division du travail, vous voyez la position diamétralement opposée. Par suite, donc je reprends 370C, par suite, on fait plus et mieux et plus aisément lorsque chacun ne fait qu'une chose, celle à laquelle il est propre, dans le temps voulu, sans s'occuper des autres. Très certainement. Il faut donc, a dit Mante, plus de 4 citoyens pour satisfaire aux besoins dont nous venons de parler. Car le laboureur ne fera sans doute par lui-même, car le laboureur ne fera sans doute pas lui-même sa charrue. S'il veut qu'elle soit bien faite, ni son hoyau, ni ses autres outils agricoles. Le maçon non plus ne fera pas ses outils. Il lui en faut en effet beaucoup à lui aussi. Ni le tisserand non plus, ni le cordonnier. Donc on est parti de 4 qui sont directement liés à la nature. Puis on voit que ces 4, si on pousse le principe jusqu'au bout, ça ne suffit pas. C'est vrai. Voilà donc des maçons, des forgerons et beaucoup d'autres ouvriers semblables qui, s'associant à notre petit État, vont augmenter sa population. Assurément. Alors, vous voyez que la division du travail appelle une division toujours plus spécialisée. Parce que c'est ça qui est impliqué dedans. Le principe de la division du travail, rattaché à la nature, donc quelque chose qui s'impose, va multiplier, et presque à l'infini. Parce que si vous poussez ce raisonnement-là, vous pouvez aller très très loin. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ça pousse de plus en plus loin. Mais il ne serait pas encore bien grand si nous y ajoutons des bouviers, des bergers, les autres espèces de pasteurs, pour fournir aux laboureurs des bœufs de labour, pour mettre à la disposition des maçons, aussi bien que des laboureurs, des bêtes de somme pour les charrois, et procurer aux tisserands et aux cordonniers des peaux et des laines. Ce serait plus, dit-il, un petit état s'il réunissait tant de personnes. Et repris-je, il serait presque impossible de fonder la ville elle-même en un endroit où elle n'aurait besoin de rien apporter. Oui, l'autocratie, hein. On cherche d'avoir un ensemble qui se suffise par lui-même, qui n'ait rien à demander en dehors. Hein. C'est cette idée-là qui naît de plus en plus, l'autarchéia de la cité, de la communauté politique. C'est impossible, en effet. Elle aura donc besoin encore d'autres citoyens pour lui apporter des autres États ce qui lui manque. Elle en aura besoin. Mais si le commissionnaire s'en va les mains vides, sans rien apporter de ce qui fait besoin à ses peuples, où il va chercher ce qui manque à ses propres concitoyens, il reviendra les mains vides. N'est-ce pas ton avis ? Oui. Il faut donc que l'État produise chez lui non seulement de quoi suffire à ses besoins, mais encore des objets tels et en tel nombre que les réclament les pays d'où il importe les denrées qui lui manquent. Vous voyez le surcroît, la surabondance. C'est en effet nécessaire. Il faut donc augmenter dans un État le nombre des laboureurs et des autres artisans, et ainsi de suite. Alors, on arrive progressivement à montrer qu'à côté de ceux qui produisent, il faut la classe des commerçants. Il faut la classe non seulement des commerçants, mais il faut la classe de ceux qui transportent d'un État à l'autre. Et alors, nous arrivons de cette manière-là à voir et à se poser la question devant un État qui pourra se suffire à lui-même, en dépendance d'autres États. C'est sûr, c'est pas lui-même et par lui-même. C'est en vue de cette koinonia, donc on retrouve le mot koinonia, le mot communauté, 371A, que tout l'ensemble va pouvoir permettre l'état de vivre. Alors on voit la naissance de l'agora, on voit la naissance de la monnaie, tout ça est mis toujours sur le même plan. La naissance de l'agora, la nécessité pour la vente et les achats, d'où la nécessité de l'agora, et la nécessité de la monnaie, et encore la nécessité des intermédiaires. Ce sont ceux donc qui permettent la communication plus facile. Alors, ils restent au marché, ceux-là. Les intermédiaires restent au marché, restent à l'agora, pour toujours faire les échanges, tandis que les autres vont partir. Alors, il se pose la question à ce moment-là, est-ce cela qui nous donne une véritable police ? Et où est la justice ? Vous voyez, vous avez vu naître une communauté de plus en plus parfaite, une communauté qui va représenter un tout dans lequel tous les besoins sont représentés, en respectant les quatre besoins fondamentaux. Alors, en voyant tout l'ensemble et en voyant que de plus en plus, ça se complique et les échanges avec les autres États. Il s'arrête, on dit, je suis en face donc de ce que représente le point de vue de la koinonia parfaite, la police parfaite, la justice. Une fois que j'ai cette communauté, où est la justice ? C'est intéressant de voir la question posée. Où est la justice ? Est-ce que nous pouvons essayer de comprendre où va se trouver en premier lieu la justice, puisque c'est la question. Alors, c'est à partir de là que Platon va préciser, d'une façon plus forte encore, ce que représentent les besoins des gardiens. Il n'a pas encore précisé ce que c'était que la justice, simplement poser la question. Alors, les gardiens, Les gardiens, c'est quelque chose de très particulier. Pour Platon, c'est une classe très importante. Vous voyez qu'elle ne vient pas au début. Il y a les relations avec les autres. Les relations avec les autres, c'est nécessaire, on ne peut pas tout produire. Il faut donc des échanges. Échanges, on pourrait dire que c'est le commerce, c'est l'économie, c'est la monnaie, c'est tout ça qui naît. À partir de là, il y a donc des relations avec des pays. Il y a donc des rivalités qui vont naître. S'il y a des rivalités qui vont naître, le pays à côté va vouloir manger le pays à côté, s'il est plus faible. Il faut donc des gardiens. Et la classe des guerriers apparaît comme une nécessité pour que l'État puisse avoir son autonomie et vivre en paix. Vous voyez comment le point de vue des gardiens naît à partir de l'économie et à partir des échanges. Et les gardiens, pour Platon, jouent un rôle extrêmement important, on va le voir, puisque ça va être progressivement, on peut dire, la classe peut-être que Platon, les gardiens et les magistrats sont les deux classes les plus importantes pour Platon. C'est un état extrêmement guerrier. Ça, il faut le comprendre. Hein. C'est pas étonnant. Hein. Si c'est un état d'efficacité des besoins, on comprend qu'à ce moment-là, le point de vue de la garde des biens devient une chose absolument nécessaire. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a une telle importance sur les qualités des gardiens, pour bien comprendre que l'État, dans toute sa perfection, réclame cela. Et on va toujours se poser la question, où est la justice? Où naît la justice? Où apparaît la justice? Comment voir la justice dans ces différents aspects-là? Donc vous voyez le mécanisme, hein, c'est ça que je voulais vous montrer, le mécanisme de la recherche de la justice. Au fond, on l'a fait, la justice. Puisqu'on fait l'État, et qu'on fait un État dans lequel la justice va apparaître parfaitement.